Chers amis, bonsoir. Je suis vraiment content de vous retrouver. Vous êtes là, nous sommes là, et j'espère que ce soir encore, la parole de Dieu va nous faire du bien. Alors certainement, je préfère vous avertir en introduction, le sujet que nous avons ce soir va certainement remuer des choses en nous. Car nous allons parler d'un sujet vraiment délicat. Nous allons parler de l'état des morts. Nous parlerons de ce que devient quelqu'un après la mort et est-ce qu'on peut entrer en communication avec celui qui est mort. Parfois, quand on évoque ces sujets-là, on évoque quelque chose de sensible parce que nous parlons parfois de personnes que nous avons aimées qui sont parties. Mais vous verrez que ce que Dieu dit dans sa parole est toujours de nature à nous consoler, est toujours de nature à nous faire du bien. Notez au tableau l'adresse du site internet de l'Église où vous pouvez aller et retrouver toutes les présentations qui sont faites ici. Vous pourrez les réécouter sur le site ou alors vous pourrez demander et recevoir une copie en papier, une copie écrite, un résumé de ce que nous présentons ici chaque soir. Ce soir, notre sujet concerne la mort et l'état des morts. Regardez ce que je voudrais vous montrer au tableau maintenant. Nous avons très souvent, à cause d'une certaine culture religieuse, une fausse conception de l'homme. Cette fausse conception de l'homme est basée plus sur la philosophie que sur la Bible. Ce sont des philosophes qui ont amené cette conception de l'homme. Cette conception de l'homme voudrait qu'un homme soit composé de deux choses. L'homme a un corps et dans le corps, il y a une âme. Lorsque l'homme meurt, le corps, selon cette conception, va pourrir, va retourner à la terre, mais l'âme, qui est une entité spirituelle immortelle, l'âme va continuer à vivre, l'âme va continuer à exister. Et le mort, en quelque part, il n'a plus de corps, mais son âme continue d'exister. Alors à partir de cela, on entre et on peut entrer dans le spiritisme, c'est-à-dire que l'on considère qu'il est possible de communiquer avec un mort. Il est possible de croire qu'un mort peut me parler, un mort peut se révéler à moi. Il est possible aussi de croire que le mort peut intervenir dans ma vie pour faire certaines choses pour moi. Mais réfléchissons sans la Bible pour le moment sur cette conception. Elle pose déjà cette conception un premier problème. C'est-à-dire que finalement, si c'est ça la conception de l'homme, si c'est ça le fonctionnement des choses, même quand on est mort, on n'a jamais fini de souffrir. Parce que ça voudrait dire que si quelqu'un vit des troubles et des difficultés avec ses enfants, sa famille, donc même après sa mort, il continue à assister au débâcle de sa famille, de ses enfants, et bien même la mort, à ce moment-là, peut devenir aussi un tourment, un endroit très difficile. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible présente une autre conception de l'homme. La Bible dit que l'homme n'a pas une âme, mais que l'homme est une âme. Nous répétons, l'homme n'a pas une âme, mais l'homme est une âme. Regardez, la Bible dit que l'homme, c'est la poussière de la terre, plus un souffle de vie que Dieu lui donne, et ensemble, tout cela devient un être vivant ou bien une âme vivante. Lorsque nous parlons de l'âme dans la Bible, l'âme, c'est l'homme. L'âme, dans la Bible, ce n'est pas une substance qui est dans l'homme. L'âme, c'est l'homme lui-même. C'est ça l'âme dans la Bible. Regardez ce que la Bible dit. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, la Bible raconte la création de l'homme. Et la Bible dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant ou bien une âme vivante. » L'homme est une âme. Lorsque l'homme meurt, il n'y a plus rien qui subsiste parce que l'âme, c'est l'homme tout entier. La preuve, regardez un peu plus loin. Ce que nous lisons dans le psaume 103, au verset 1er. Au psaume 103 et au verset 1er, c'est David qui parle. David est un écrivain biblique. Et regardez ce qu'il dit. David dit, au psaume 103 et au verset 1er, « Mon âme bénit l'Éternel. » Et il va faire une deuxième phrase pour dire la même chose, mais il va utiliser d'autres mots. Il va faire un parallélisme, mais avec des synonymes. Donc, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel. » Et il reprend, il dit, « Que tout ce qui est en moi bénisse son c'est non. » Autrement dit, l'âme, c'est tout ce qui est en moi. Donc, quand la Bible dit « L'Éternel sauvera ton âme », la Bible est en train de dire « L'Éternel te sauvera ». C'est encore plus clair. Regardez avec moi, pour que ce soit encore plus clair. Regardez ce qui est dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Qu'est-ce que nous lisons? C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, il devint quoi? Il devint quoi? Une âme vivante. Il devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire que Adam, la Bible dit qu'il est devenu un être humain, une âme vivante. Tandis que Jésus, il est devenu un esprit vivifiant, un esprit donneur de vie. Jésus est différent d'Adam. Adam a reçu le souffle de vie. Jésus dit, moi j'ai la vie en moi-même. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Regardez encore. Un autre texte qui vous prouve que l'âme, c'est l'homme. Prenez vos Bibles et lisons dans la Genèse au chapitre 12. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 12. Regardez ce que la Bible dit. Lorsque vous prenez vos Bibles, c'est le tout premier livre de la Bible, le chapitre 12. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas une Bible en main et qui voudrait recevoir une Bible afin de pouvoir faire la lecture? Si c'est votre cas, levez simplement la main, on va vous passer une Bible. Comme ça, vous pourrez lire vous-même et vous pourrez être sûr de ce que vous avez lu. Levez la main et on vous donnera une Bible, si vous en avez besoin. D'accord. Maintenant que vous avez la Bible, rappelez-vous que nous lisons Genèse, le premier livre de la Bible, et nous lisons au chapitre 12. Genèse chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 10. La Bible dit quoi? Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Abraham vit dans un pays, il y a une famine. Il dit, je laisse ce pays et je vais ailleurs pour trouver à manger. Où est-ce qu'il va? Au verset 11. Où est-ce qu'il va? Dans quel pays il va? La Bible dit, comme il était près d'entrer en Égypte. Donc, il laisse l'endroit où il habite et il dit, je vais en Égypte parce que là où je suis, il n'y a pas à manger. Mais quand il est tout près d'entrer en Égypte, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il dit à Saraï, sa femme, Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Et je pense que tous les hommes qui sont là soulignent ce verset dans leur Bible. Parce que nous devons apprendre à faire des compliments à nos femmes. Mais je pensais au moins entendre une femme dire amen. Est-ce que vous avez noté que le patriarche Abraham, tout en étant un homme de Dieu, tout en étant un homme spirituel, il reconnaît la beauté de son épouse et il peut lui dire, je sais que tu es une femme belle. De temps en temps, il faut dire cela à l'épouse et il faut que les épouses aussi de temps en temps disent au mari, je vois vraiment que tu es un homme bien. D'accord? Il faut savoir se faire des compliments. Ça, c'est important. Mais il fait le compliment, mais pour une mauvaise raison. Regardez pourquoi. Il dit au verset suivant, au verset 12, « Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Et alors, comme il a peur qu'on le tue pour prendre sa femme, il va proposer à sa femme de faire quelque chose d'à moitié mal. Qu'est-ce qu'il va proposer à sa femme? Au verset 13, Genèse 12, verset 13. Abraham dit à sa femme, « Dis, je te prie que tu es ma sœur. » Ce qui était à moitié vrai, parce que quand vous lisez bien l'histoire biblique, ils avaient une parenté. « Dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. » Et qu'est-ce que vous lisez? « Et mon âme vivra grâce à toi. » Quand Abraham dit, je vais avec toi en Égypte, si ils apprennent que tu es ma femme, ils vont me tuer. Dis que tu es ma femme, si tu dis que tu es ma femme, mon âme vivra. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comment? Dis que tu es ma sœur. Merci, vous suivez. Dis que tu es ma sœur, si tu dis que tu es ma sœur, mon âme vivra. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu dis que tu es ma sœur, les gens ne vont pas me tuer. Donc l'âme dans la Bible, c'est la personne. Est-ce que c'est clair, mes amis? C'est très clair. Par conséquent, si nous sommes au clair sur cette conception de l'homme, si nous sommes au clair sur ce qu'on appelle l'anthropologie biblique, c'est-à-dire comment un homme est constitué, il y a plein de choses que nous ne faisons plus à partir de maintenant. Par conséquent, si nous disons que l'âme, c'est l'homme, lorsque quelqu'un est mort, nous savons que nous ne pouvons pas entrer en communion avec lui, ni en communication avec lui. Si nous croyons que l'homme n'a pas une âme qui survit après sa mort, lorsqu'on nous dira on va prier pour les morts, nous dirons, ce n'est pas la peine de faire cela, car quand quelqu'un est mort, il ne sait rien et ça ne sert à rien de prier pour lui. Lorsqu'on nous dira, à une certaine période de l'année, il faut illuminer les tombes pour éclairer les âmes des morts, nous dirons, nous ne pouvons pas pratiquer cela, parce que les morts ne participent pas à ce que font les vivants. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. Regardez comment la Bible le dit. La Bible le dit d'une manière très claire. La Bible dit que l'homme, lorsque il est mort, l'homme ne sait plus rien du tout. Et mes amis, dans la Bible, on ne consulte pas les morts. On ne va pas chez des gens qui évoquent les morts. On ne prie pas pour les morts. On n'allume pas de bougie pour les morts. Et nous devons savoir une chose. Après la mort, personne ne peut changer son sort. La Bible dit que les morts ressusciteront. Mais la Bible dit les morts en Christ qui ressusciteront. Ça veut dire que si tu vas ressusciter pour la vie, ce n'est pas parce qu'on a prié pour toi après ta mort. C'est parce que tu es mort en Christ. Donc, au moment de ta mort, tu étais en Christ. Ce qui compte,
c'est de mourir en Christ, d'être avec Christ. Et comme je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, et peut-être pas vous non plus, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Donc, la bonne décision, c'est quoi? C'est d'être avec Jésus dès aujourd'hui, puisque je ne sais pas quand je vais mourir. Et quand je meurs, ni rien, ni personne ne peuvent changer mon sort. Et c'est pourquoi, mes chers amis, un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut pas aller chez un gardien d'affaires. Un enfant de Dieu ne peut pas aller chez un crimboiseur. Un enfant de Dieu ne peut pas aller dans les endroits où on invoque les morts. Un enfant de Dieu ne peut pas aller dans les endroits où on prie aux morts. Les enfants de Dieu prient pour les vivants. Et quand quelqu'un est mort dans notre famille, ce n'est pas pour le mort qu'il faut prier, c'est pour les vivants qui restent qu'il faut prier. C'est eux qui ont besoin d'être consolés, c'est eux qui ont besoin d'être encouragés, c'est eux qui ont besoin de notre présence. Le mort, il ne sait plus rien. Il ne sait pas ce que nous faisons. Et vous savez, dans la Bible, il y a un seul homme dont la Bible raconte en détail qu'il a été consulté un mort. Mais cet homme-là, c'est un exemple à ne pas suivre. Sauf si vous voulez finir comme lui. Regardez qui il est, regardez ce qu'il a fait et regardez comment il finit. Et vous allez me dire, si après ça, nous pouvons consulter des morts, consulter des quimboiseurs ou prier pour des morts. Prenez vos Bibles et regardez qui est cet homme et ce qu'il a fait. Prenons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel au chapitre 13. Et regardons qui est cet homme. Faisons connaissance avec lui. Cet homme, dans 1 Samuel, chapitre 13. Nous lisons au verset 8. Cet homme s'appelle Saül. Il est roi en Israël. Mais quel genre d'homme est-il? Comment fonctionne-t-il? L'homme qui consulte les morts, c'est quel genre d'homme? Regardez à partir du verset 8. Saül était roi, mais Saül n'était pas prêtre. Saül était roi, il n'était pas prêtre. Il n'avait pas le droit d'offrir des sacrifices. Les sacrifices devraient être manipulés uniquement par les prêtres. Mais Saül, cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Regardez, 1 Samuel 13. Un prêtre, un jour, lui a donné un rendez-vous et lui a dit, « Tu m'attends 7 jours et je viendrai pour offrir un sacrifice. Tu m'attends 7 jours. » Et la Bible dit quoi? 1 Samuel 13, verset 8. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de... Loin de qui? De Saül. Alors, Saül dit, « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'Holocauste. La Bible dit au verset 10, « Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il dit qu'il a fait? Je voudrais que ce soit vous qui puissiez le dire. Lui-même, il dit dans sa bouche, « J'ai un problème. » J'ai une difficulté. Quand j'ai un problème, qu'est-ce que lui-même dit? Il dit, je n'ai pas imploré l'Éternel. Il dit, je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Mes amis, de ce que nous venons de lire, nous avons fait la connaissance d'un homme qui s'appelle Saül. Il a trois caractéristiques. Premièrement, quand il a un problème, il ne prie pas. Deuxièmement, quand cet homme, on lui donne un commandement, il n'observe pas le commandement. Troisièmement, cet homme, Saül, c'est un homme qui préfère le peuple à la parole de Dieu. Parce qu'il dit, quand j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, je me suis fait violence. Donc c'est un homme qui préfère la faveur populaire au lieu de la parole de Dieu. Il a trois caractéristiques. Est-ce que vous pensez qu'il est un modèle à imiter? Non. La preuve, regardez la suite. La Bible dit encore de lui, dans 1 Samuel 15, verset 10, tournez une page. Regardez ce que la Bible dit encore de lui. 1 Samuel 15, verset 10. La Bible dit, l'Éternel, c'est juste deux pages plus loin. 1 Samuel 15, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens. » C'est grave, hein, ça, quand Dieu dit « Je me repens. » Ça veut dire que Dieu est en train de dire, « Vraiment, ce garçon me déçoit. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Quelle caractéristique vous lui donnez là encore, si vous avez bien suivi? Qu'est-ce que Dieu dit de lui? Dieu dit quoi? Je me repens parce qu'il n'observe pas mes commandements. Mais lui, quand il rencontre le prophète, il dit au prophète, sois béni au nom de l'Éternel parce que j'ai observé la parole de l'Éternel. Alors finalement, parmi les deux, il y a un menteur. C'est ou bien Dieu qui a menti, ou bien Saül qui a menti. Alors maintenant, on va faire un vote. Quels sont ceux qui pensent que c'est Dieu qui a menti? Et quels sont ceux qui pensent que c'est Saül qui a menti? C'est clair. Vous êtes bien d'accord que Saül, en plus de tout ce que nous avions dit, en plus de cela, il est hypocrite. Et en plus de cela, il se fait Dieu. C'est lui qui a raison. Ce que Dieu dit, il dit le contraire. Mais ce n'est pas tout. Regardez quel genre d'homme il est encore. Verset, chapitre 18. 1 Samuel 18, verset 12. 1 Samuel, chapitre 18, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez trouvé? 1 Samuel 18, verset 12. Tellement Saül faisait des bêtises, Dieu l'a rejeté. Dieu a choisi un autre homme qui s'appelait David. Mais regardez ce que la Bible dit. 1 Samuel 18, 12. La Bible dit, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. La Bible dit clairement que Saül est un homme de qui Dieu s'est retiré. Mais si Dieu s'est retiré de Saül, c'est parce que Saül, le premier, s'était détourné de Dieu. Mes amis, Dieu, c'est le Dieu de la liberté. Dieu ne s'impose pas. Dieu ne force pas les portes. Dieu n'oblige pas les gens. Dieu propose et l'homme accepte ou il refuse. Dieu était avec Saül. Mais Saül, à un moment, il a dit, « J'en ai marre de Dieu. J'en ai marre de ses commandements. J'en ai marre de marcher avec le Seigneur. » Alors le Seigneur lui a dit, « Mais Saül, tu es libre. Tu es un être humain libre. Fais ce que tu veux. Tu ne veux plus de moi. Je respecte ta décision. Je me retire. » C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent parfois, « Je vais me donner à Jésus quand un ange va venir pour me parler. » Mais mes amis, vous allez attendre longtemps. Parce que si Dieu fait ça, ça veut dire que Dieu vous impose sa volonté. Dieu a mis toute sa volonté dans sa parole. Il nous donne sa parole et il nous dit, « Tu es libre de prendre ou de ne pas prendre. » Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que Saül, c'est un homme à imiter? Regardez la suite et vous verrez. Dans 1 Samuel 28, Saül va maintenant toucher le fond. Il a déjà fait le mal, mais là, il va maintenant toucher le fond. 1 Samuel 28, et nous lisons au verset 3. 1 Samuel 28, verset 3. Regardez ce que la Bible dit. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Samuel, c'est le prophète que Saül n'écoutait pas. Vous vous souvenez que Samuel, c'est le prophète que Saül n'écoutait pas. Samuel, maintenant, il est mort. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Ça, c'est au début. Quand il était encore avec Dieu, il avait enlevé du pays toutes les personnes qui évoquaient les morts, toutes les personnes qui faisaient de la magie, tous les gardiens des affaires, il les avait enlevés du pays. Quand il était avec Dieu au début, mais maintenant, il a renié Dieu, il a renoncé, il a laissé tomber Dieu. Samuel est mort. Samuel qu'il n'écoutait jamais. Samuel à qui il n'obéissait jamais. Maintenant, Samuel est mort. Regardez ce qu'il veut. La Bible dit au verset 4, les Philistins, ses ennemis, se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Mes amis, vous voyez ce qui arrive à Saül là? Ça nous arrive tous. Parce qu'il y a des moments où nous marchons avec Dieu. Il y a des moments où nous entendons la parole de Dieu. Et puis il y a des moments où nous nous détournons de Dieu. Mais il faut toujours savoir que lorsque tu te détournes de Dieu, un jour ou l'autre, tu vas trembler et tu vas avoir peur. Parce que mes amis, il y a des moments dans notre vie, si ce n'est Dieu, personne ne peut nous venir en aide. Il est dans une situation où il a une armée, mais il tremble. Vous avez jamais vu ça? Un homme qui a une armée et qui tremble. Mais ça peut nous arriver. On peut avoir du fer forgé chez nous et puis on tremble. Hein? On peut avoir un fusil à la maison et puis on tremble quand même. Hein? On peut avoir beaucoup d'argent en banque et puis on tremble quand même. Hein? Parce qu'il y a des choses que ni le fer forgé, ni le fusil, ni l'argent ne peuvent régler, mes amis. Il a l'armée, mais il tremble. Et regardez ce qu'il va faire. La Bible dit, au verset 6, Saül consulta l'Éternel. Ça vous étonne ou ça ne vous étonne pas? Ça vous étonne ou ça ne vous étonne pas? Toutes les bon dieux étaient capables de parler, ils étaient capables de bon dieu. Sur les roses, à présent, ça fait mêler. Il a fini, il a dit, mon Dieu, regardez, ça, on peut faire pas moins. Et qu'est-ce que vous lisez? La Bible dit, Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urim, ni par les prophètes. Mais ce n'est pas étonnant. Parce que je me demande, même si Dieu lui avait répondu, est-ce qu'il aurait obéi à ce que Dieu lui aurait dit? Parce que la Bible montre qu'il avait l'habitude d'entendre la parole de Dieu et de faire ce qu'il voulait quand même. Maintenant, Dieu le connaît. Dieu connaît son cœur. Il dit à Dieu, ça ne va pas, aide-moi. La Bible dit que Dieu ne lui répond pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu. Mais ça veut dire que Dieu est en train de dire, mais Saül, à quoi ça sert que je parle? Puisque manque à parler, c'est vent. Et vous vous rappelez de Jésus, quand on faisait le procès de Jésus, la Bible dit à un moment, les gens interrogeaient Jésus. Et vous vous rappelez ce que la Bible dit? À un moment, il ne leur répondait plus. Parce qu'il y a un moment, mes amis, quand Dieu a parlé, quand il a dit ce qu'il devait dire, il te laisse avec ce qu'il devait dire. Et on dit, Seigneur, parle. Mais pour dire quoi? Tu veux que le Seigneur dise le contraire de ce qui est dans la Bible? Dieu a dit, tu ne voleras point. Mais Seigneur, m'en comprends ça, dis-moi si j'ai raison. Mais qui ça, mon Dieu, qui a encore? Mais il a déjà dit, tu ne voleras point. Saül n'écoutait pas. Alors Dieu lui dit, Saül, mais je ne vais pas perdre mon temps encore une fois. Mais alors, comme Dieu ne lui répond pas, au verset 7, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors, Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Alors, non seulement il est déguisé, mais il va la nuit. Ça veut dire que vraiment, il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Et pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il sait que ce qu'il fait là, c'est mal. La Bible dit encore, regardez, lorsqu'il arrive chez la femme, il dit, au verset 8 toujours, il dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait, tu sais quoi? Ce que Saül a fait et comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Mes amis, vous avez une preuve là que les gadettes affaires sont des charlatans. Je vais vous dire pourquoi. Saül est déguisé, il vient la nuit devant la femme. Il dit à la femme, fais monter un mort pour moi. La femme lui répond, mais comment tu ne sais pas que Saül a interdit de faire ça? Saül, c'est le roi, il a interdit de faire ça. Comment il partait ça, c'était Saül qui était devant là? Mais il gardait des affaires, il parle, c'est Saül qui là? Mes amis, arrêtez de porter l'argent bas à monde qui a mangé l'argent nous. Il gardait des affaires, anti-déguisement Saül mettait, il ne peut même reconnaître Saül. Puisqu'il parle à Saül comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. Il dit à Saül, comment tu ne sais pas que Saül a interdit de faire ça? Mais si elle savait que c'était Saül, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Elle aurait dit, Saül, mais pourquoi tu viens devant moi? C'est toi-même qui as interdit ça. Mais il n'y a pas qu'à rien. Si il était qu'à en bagaille, il était qu'à commencer par voir que c'est Saül qui l'a. Il n'y a pas qu'à rien. Regardez la suite. Et vous allez voir à quel moment. Vous verrez à quel moment elle commence à voir. Regardez à quel moment elle commence à voir. La Bible dit, au verset 8, la femme lui répondit, au verset 9, nous avons déjà lu le verset 9. Le verset 10, Saül lui jura par l'Éternel. Mais vraiment, ce Saül-là, vraiment. Bon, Dieu n'est pas science. Hein. L'aïe joigne Samuel, je te bénis au nom de l'Éternel. L'aïe caillon tient boisé, je te jure par l'Éternel. Vous ne pouvez pas nommer Dieu fait la fête. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ce Saül-là, vraiment, c'est un mauvais exemple. Hein. C'est un mauvais exemple. Il dit, regardez, Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, mais l'Éternel est vivant. Allez, où est l'Éternel? Ou qu'a dit l'Éternel vivant, mais en même temps, c'est Gaïtien Boise, où est? Les autres savent dire, nous qu'a fait ça aussi. Je n'ai pas dit ça fort. Moïse, baisse le micro. Je n'ai pas dit ça fort. Les autres savent dire, nous qu'a fait ça. Les dimanches, nous l'emmèsse, mais le vendredi, nous t'es Gaïtien Boise. Le samedi, nous au temple, mais le lundi, nous Gaïtien Boise. Il faut que nous arrêtions de faire ça, mes amis. Nous ne pouvons pas marcher en l'aide des tableaux. Il dit ça, l'Éternel est vivant, mais il dit ça chez un guimboiseur. Ça, c'est vraiment se moquer de Dieu. Et regardez la suite. Et là, vous allez voir que vraiment, c'est un homme extraordinaire. Il dit, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Mais c'est extraordinaire. Les Samuel t'es vivant, il partait qu'à coûter ça Samuel de Gadia. À présent Samuel mort, fais-moi monter Samuel. Mais c'est extraordinaire. Mais des fois nous sommes comme ça, les nous la maman nous qu'a parlé par nous, jamais nous pas coûter. Les maman mort, nous se vient faire maman vini parler par nous pour dire nous en bagaille. Mais non mes amis. Mais non. La Bible dit encore, regardez ce qui va suivre. Au verset 12, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saül? Vous avez vu à quel moment elle commence à voir? C'est quand quelque chose qui ressemble à Samuel monte. À ce moment, la chose lui révèle, mais c'est Saül qui est devant toi. Et cette chose qui monte, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Samuel? C'est pas Samuel, parce que la Bible dit que les morts ne participent en rien à ce qui se fait sous le soleil. Mais la Bible va nous dire qui est-ce. Regardez, lisez la suite, vous verrez. Le roi lui dit, donc Saül, ne crains rien, mais que vois-tu? Regardez bien ce que la femme répond. Le roi lui dit, que vois-tu? Et la femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Elle ne dit pas « Je vois Samuel. » Elle dit « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » C'est ce que le quimboiseur voit, un Dieu qui monte de la terre. Vous qui êtes venus là, vous voyez que c'est Samuel. Mais le quimboiseur voit que c'est un Dieu qui monte de la terre. Dieu, mes amis, d'où vient-il en général? Du ciel. Dieu descend du ciel vers l'homme. Le Dieu qui veut monter tout le temps, qui veut prendre la place de Dieu, le Dieu qui veut prendre le trône de Jésus, c'est qui ce Dieu-là? C'est Satan. Le Dieu véritable, il descend vers l'homme. Le diable, c'est toujours, il est en train de monter et de vouloir prendre la place de Dieu. N'est-ce pas le diable qui a dit à Jésus, « Si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. » Il est toujours en train d'essayer de prendre la place de Dieu. Dieu est le seul qu'on doit adorer. Mes amis, la Bible est claire. Cette représentation de Samuel, c'était le diable, c'était un démon, c'était un Dieu qui montait de la terre, mais ce n'était pas Samuel. Si nous allons vers un quimboiseur et qu'il nous dit qu'il fait parler maman, qu'il consulte quelqu'un, qu'il fait monter un esprit, mes amis, c'est un démon qu'il consulte, c'est pas votre parent qui est mort. Et la Bible est claire. Regardez la suite. Regardez ce qu'on dit après au verset 16. Au verset, je reprends. Au verset 14, il lui dit, donc Saül demande à la femme, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, quoi? C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Et Saül, lisez vous-même pour voir. Saül, quoi? Comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. C'est Saül qui a compris que c'est Samuel. Est-ce que la femme lui a dit que c'est Samuel? À aucun moment. La femme lui dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. La deuxième fois, elle dit, je vois un vieillard qui monte enveloppé dans un manteau. Mais Samuel, Saül, lui, c'est lui qui décide que c'est Samuel qui est là. Mais la femme ne lui a pas dit ça. Et mes amis, vous vous rappelez que la Bible dit que les démons peuvent se déguiser en agneaux. Eh bien, mes amis, la Bible est claire. On n'invoque pas des morts. On invoque des démons qui prennent l'apparence du mort. Et lorsque un soi-disant mort vient vous parler, ce n'est pas le mort, c'est un démon qui prend l'apparence du mort qui vient vous parler. Et alors, mes amis, malgré que Saül a fait tout ça, est-ce que vous croyez que ça lui a apporté la paix? Est-ce que vous croyez que ça lui a apporté une solution à son problème? Est-ce que vous croyez que ça lui a apporté une satisfaction? Eh bien, je vous le dis, non, ça ne lui a rien apporté. Regardez comment il finit sa vie. Regardez comment il finit sa vie. La Bible dit comment il finit sa vie. Il finit sa vie d'une manière vraiment, vraiment triste. Il connaît une fin tragique. 1 Samuel 31, verset 4. 1 Samuel 31, verset 4. La Bible dit que pendant une bataille, pendant une bataille, après qu'il ait consulté le mort, Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée, et qu'est-ce que vous lisez? Il se jeta dessus. Saül se fit harakiri. Il a mis son épée tête en bas devant lui et il s'est couché sur l'épée. C'est comme ça qu'il est mort. Mes amis, je vous pose une question. L'homme dont la Bible raconte l'histoire, qu'il a consulté un mort, ça ne lui a apporté ni paix, ni joie, ni victoire. Ça lui a apporté quoi? Plus de tourments, plus de défaites, et il a fini par se suicider lui-même. Mes chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs, un homme de Dieu, une personne qui se prétend enfant de Dieu, ne participe à rien qui a trait aux morts, ni messe pour les morts, ni prière pour les morts, ni illumination des morts, ni consulter les morts, ni aller chez Quimboiseur, aucun enfant de Dieu ne devrait participer à ça. Et quand je vous dis ça, il ne s'agit pas d'une affaire d'adventiste, de catholique ou d'évangéliste. Ça n'a rien à voir. Depuis ou déclaré ou c'est Ish bon Dieu, ou pas n'y a rien à faire ça. Qui ou catholique, qui ou évangéliste, qui ou adventiste, si ou déclaré ou c'est Ish bon Dieu, ou pas n'y a rien qu'à faire dans ces bâtiments-là. Parce que la Bible est claire. Si tu as besoin d'une protection, si tu as besoin d'une victoire, ce n'est pas un mort qui va te le donner, c'est l'Éternel qui va te le donner. Regardez comment la Bible dit ça et comment c'est magnifique. Regardez comment la Bible dit que toute protection véritable vient de l'Éternel. Si tu as besoin d'une victoire, si tu as besoin d'une protection, si tu as besoin d'une guérison, si tu as besoin de connaître ton avenir, demande à l'Éternel, demande à Jésus. La Bible le dit dans Ésaïe 31, versets 5 à 7. Vous avez le texte au tableau. Lisez avec moi. La Bible dit, « Comme les oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera, il délivrera, il épargnera et il... » Ah non, ça trop belle, faut que vous dites ça et puis moi. Ça pas belle? Regardez ça, vous dites avec moi. « Comme les oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et il... » Mais nous avons vient dire, mais écoute là, nous avons tiré Jérusalem, nous avons mettre prénom nous. Chaque monde a mettre prénom. Nous avons vient dire, mais nous avons mettre prénom nous. Comme les oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur. Il m'épargnera et me. Alléluia, mes amis. Mais c'est là guérison, voyez. C'est en l'Éternel bailaye, mes amis. Et ce soir, quand tu rentres chez toi, tu as quelque chose à faire. Je vais te montrer ce que tu as à faire. Regardez Ésaïe 31 toujours. Au verset 6, la Bible dit, « Si je veux la protection de l'Éternel, si je veux que l'Éternel me sauve, j'ai une chose à faire. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. » Si tu veux cette protection, il te faut revenir à l'Éternel. Mais tu as encore autre chose à faire. Au verset 7, en ce jour, chacun rejettera quoi? Ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriquées de vos mains. Oh mes amis, je vais vous dire une chose simple ce soir. Quel que soit le médaillon qu'on vous avait donné, quelle que soit la bouteille qu'on vous avait donnée, quel que soit le parchemin qu'on vous avait donné, quelle que soit la bague qu'on vous avait donnée, quel que soit le fer à cheval que vous aviez mis sous votre voiture, ce soir, quand vous rentrez, vous devez faire ce que la Bible dit. La Bible a dit, si je veux la protection de l'Éternel, en ce jour, chacun rejettera ses idoles. Ce que tu as chez toi, que ce soit un talisman, que ce soit une petite fiole, une prière, un tricot que tu avais fait bénir, quel que soit ce que tu as qui a trempé dans le maléfice, ce soir quand tu rentres, au nom de Jésus, tu prends cette chose et tu rejettes cette chose. Tu la brûles, tu la jettes dans la mer, tu l'enterres, tu la balances et tu dis à partir de maintenant, je compte sur l'Éternel et sur l'Éternel seulement pour ma protection. Je sais que l'Éternel me délivrera. Je sais que l'Éternel me guérira. Je sais que l'Éternel me protégera. Je n'ai besoin ni de quimbois, ni de fiole, ni de prière, ni de parchemin, parce que je sais que si je persévère avec ça, ma fin sera la fin de Saül. Parce que mes amis, quimbois c'est pour un temps. La Bible a dit, on ne chasse pas Belzébuth par Belzébuth. Si je dis à Belzébuth, ben en faveur, parce qu'il y a un plus gros Belzébuth qui vient courir de lui. Mais demain matin, plus gros Belzébuth a qu'à virer en l'air encore. Zot jamais ou un monde trappé en barrière dans tien bois et puis garder longtemps. Tien bois c'est pour un temps. Là on compte en six semaines pour ces deux jours pour Satan. Les deux mois qu'abord ça pour un an. 6 mois après il va venir prendre. Oh, je vous en supplie, mes amis. Ça vous fait peut-être rigoler. Mais notre expérience pastorale nous montre qu'il y a trop de personnes qui trempent dans ces affaires-là en Martinique. Il y a trop de personnes qui se livrent à ces petits jeux. Et le résultat, c'est quoi? Après, c'est des tourments. Après, c'est des persécutions. Après, quand il a qu'à craser en bas. Oh, mon ami. Peut-être que ce soir, la parole de Dieu est en train de te troubler. Mais je te dis, Jésus est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus est mort sur la croix pour que tous nos péchés soient pardonnés. Et si tu te rends compte ce soir que tu as trempé dans ces choses-là, que tu as utilisé des charmes, des filtres, que tu as arrosé ton magasin, que tu as trempé tes outils dans des choses, ce soir, demande pardon à l'Éternel. Ce soir, rejette ces choses-là. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu vas finir comme Saül. Parce que tous ceux qui se tournent vers le quimbois, ils terminent comme Saül. Ils finissent mal. Ils finissent en bêtise. Oh, mes amis, ce soir, Dieu ne vous a pas emmené ici par hasard. Qui que vous soyez, considérez que ce n'est pas par hasard que vous êtes venu ici ce soir. Seulement le Seigneur savait que vous alliez venir ici ce soir. Et si tu as entendu cette parole, c'est parce que Dieu voulait te le dire depuis longtemps. Oh mon frère, oh ma sœur, tu te dis chrétien, tu te dis croyant, tu te dis enfant de Dieu, peu importe la religion à laquelle tu appartiens, rejette ces choses-là. Confie-toi en l'Éternel et tu seras protégé. Oh, ce soir, il y a peut-être ici quelqu'un qui a besoin d'une délivrance par rapport à quelque chose de ce type. Quelqu'un qui est tourmenté dans sa maison. Quelqu'un qui entend des bruits. Quelqu'un qui est malmené. Quelqu'un qui a trempé dans ça et qui veut le pardon de ses péchés. Ce soir, le Seigneur est disposé à le faire pour nous. Car lorsque Dieu nous montre le mal, il nous dit aussi, voici la grâce. Et le Seigneur nous offre la grâce ce soir. Si ce soir, quelqu'un a besoin de recevoir le pardon de ses péchés, quelqu'un a besoin d'une délivrance dans ce domaine, je dis à la personne, ne regarde point ni à droite ni à gauche, mais tandis que nous allons chanter, attire-moi à toi Seigneur, laisse le Seigneur t'attirer, laisse-toi attirer par le Seigneur, laisse le Seigneur t'attirer, viens jusqu'ici, et lorsque tu seras là, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur opère une délivrance, pour que le Seigneur te guérisse, pour qu'il te pardonne, pour qu'il te révèle le mal et qu'il te donne la force de rejeter le mal. Oui Seigneur, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Je veux abandonner l'horoscope. Je veux abandonner le quinbois. Je veux appartenir à mon Dieu, car c'est mon Dieu qui me protège. Chantons, s'il vous plaît.
Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié.
Dire au Seigneur qu'il est tout pour vous.
Tu es tout.
Levez-vous
pour moi.
Et venez chercher une bénédiction du Seigneur. Si quelqu'un a besoin d'une
sans
grâce,
toi,
d'une délivrance, quel que soit ce dans quoi tu as trempé, tu veux
tu
être libéré parce que tu as une persécution dans ce domaine, eh bien viens ce soir. Viens, nous prierons avec toi. Viens, nous prierons pour toi. Et le Seigneur te délivrera. Mais il faut que tu acceptes de rejeter tout ce qui est chez toi qui n'est pas bon. Tout ce qui est chez toi qui n'est pas bon, il faudra accepter de le rejeter. Et il faudra dire, Seigneur, attire-moi à toi. Qui que vous soyez, vous voulez que le Seigneur vous délivre. Vous voulez que le Seigneur vous sauve. Vous voulez en finir avec quelque chose qui vous persécute. Eh bien, ce soir, vous reconnaissez que la vraie protection est dans l'Éternel. Alors, mes amis, venez. Venez que le Seigneur vous bénisse. Venez que le Seigneur vous délivre de tout mal. Et qu'il pardonne et qu'il purifie nos péchés. Oh oui, Seigneur, il y a de ceux qui ont besoin d'une délivrance et qui viennent à toi. Eh bien, le Seigneur prend votre nom. Le Seigneur travaille pour vous. Et le Seigneur vous délivrera.
Je suis rassuré.
Oui, dans tes bras, Seigneur, je suis rassuré.
Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
Chantons ensemble.
Tu es tout.
éternel, notre Père et notre Dieu, ce soir encore, ta parole est limpide, claire comme de l'eau de roche. Et il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas compris, que nous n'ayons pas compris que le diable, par des artifices, par des philosophies, par des pratiques, est en train d'entortiller l'humanité, de nous enchaîner et de nous attirer loin de toi et de nous conduire à la mort. Mais notre Père, ce soir, tu as été bon pour nous. Tu nous as révélé que la vraie protection se trouve en toi. Tu nous as montré, Seigneur, que nous ne pouvons pas tremper dans quoi que ce soit de spirit, mais que nous devons au contraire avoir une vie spirituelle, une vie avec Jésus, une vie au pied du Seigneur, une vie comblée par le Saint-Esprit, car Seigneur, nous ne pouvons guérir le mal par le mal, mais nous ne pouvons combattre le mal que par le bien. Ô Seigneur, ce soir, tu nous dis que le quinbois, que la voyance, que l'horoscope, que consulter les morts, que toutes ces choses ne sont pas des pratiques pour tes enfants, que ceux qui se livrent à toi, à cela, pardon, ce sont des hommes comme Saül, des gens qui t'ont rejeté, des gens qui n'écoutent pas ta parole. Ce sont ce type d'hommes qui se livrent à cette activité. Mais nous, Seigneur, nous ne faisons pas partie de ces hommes-là. Nous ne voulons pas te rejeter. Nous ne voulons pas mépriser ta parole, Seigneur. Mais au contraire, nous voulons accepter ta parole. Nous voulons vivre de ta parole. Nous voulons aimer ta parole, Seigneur. Et ta parole nous dit que les morts ne savent rien. Ta parole nous dit de ne pas prier pour les morts. Ta parole nous dit de prier pour les vivants. Ta parole nous dit que ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Ô Seigneur, ce soir, nous te louons. Et nous te prions. Parce que peut-être dans cette salle, il y a quelqu'un qui a exercé le quinbois ou qui a consulté des voyants et qui maintenant est tourmenté, maintenant a des problèmes dans sa vie. Je te prie, dans le nom de Jésus, de pardonner son péché. Je te prie, Seigneur, de lui envoyer ton Saint-Esprit afin que ton esprit lui révèle le mal qu'elle a commis et que ton esprit lui permette de confesser son péché et pardonne son péché dans le nom de Jésus. Et dans ta bonté, Seigneur, libère cette personne, libère-la et permets que ce soir elle dorme bien, que sa maison soit en paix, qu'il n'y ait pas de bruit dans sa maison. Permets, Seigneur, que tout esprit malin soit repoussé de tes enfants qui se confessent en toi ce soir. Ô Seigneur, il y a peut-être une personne qui est victime. On lui a fait du tort. Elle n'était pas totalement en toi et le mal l'a atteint. À cause de cela, elle est peut-être devenue une personne rejetée, marginale. Elle est peut-être malade aujourd'hui. Elle a peut-être tout perdu. Il y a peut-être quelqu'un ici, Seigneur, contre qui on a jeté un sort. Parce que cette personne n'était pas en toi, le diable a pu l'attaquer. Mais ce soir, Seigneur, je te prie de donner ton Saint-Esprit à cette personne. Permets que cette personne décide de te donner sa vie. Permets que cette personne décide de faire alliance avec toi. Permets que cette personne décide de se repentir. Permets que cette personne décide d'être baptisée comme Jésus. Et permets que ce soit à cause de cette décision que cette personne soit libérée dans le nom de Jésus. Seigneur, guéris cette personne qui est malade à cause d'un mal qui a été jeté contre elle. Guéris cette personne qui souffre ce soir. Guéris cette personne qui a des bruits dans sa maison. Libère-la. Guéris cette personne qui a des bruits dans sa tête. Guéris cette personne, Seigneur, qui n'a pas de succès, qui n'a pas de succès dans sa vie parce qu'on a fait le mal contre elle. Libère cette personne parce qu'elle te donne sa vie. Seigneur, lorsque nous rentrerons à la maison, parle à nos esprits. Montre-nous si dans la maison, il y a quelque chose qui appartient à Satan. Montre-nous si nous avons ramené de chez le quimboiseur un jour quelque chose. Et permets, Seigneur, que nous n'ayons pas peur, que nous ayons la force et que dans le nom de Jésus, nous puissions purifier nos vies en ce soir. Nous puissions rejeter les idoles, rejeter les statuettes, rejeter les talismans et que nos maisons soient habitées par ton Saint-Esprit et que la paix revienne dans nos maisons. Seigneur, dans ta grâce et dans ta bonté, bénis-nous, pardonne nos péchés, fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.